France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un an après les JO, prenez un panel de 1000 Français âgés de 18 ans et plus. Mettez-leur des mots pour définir le souvenir qu'ils ont des JO. 8 positifs, 8 négatifs. Les 6 premiers cités sont positifs. Réussite, fierté, fête, joie, diversité, inclusion. C'est la Fondation Jean Jaurès qui a fait cette expérience que nous allons prolonger ensemble. Regardez, on fait revenir la vasque olympique au Jardin des Tuileries comme si on pouvait retoucher un peu du doigt cette parenthèse que nous avons tous vécue ensemble. Et bim, le voilà, le premier mot-clé peut-être le plus important et que tout le monde cite quand on parle des JO, y compris d'ailleurs dans la contribution de la Fondation Jaurès, le mot parenthèse, comme si la joie ne pouvait être que temporaire, comme si nos élans collectifs n'existaient que parce qu'ils ont un périmètre précis, donc des limites, comme si après la joie venait forcément le vide. Où est passée la joie des jeux et pourquoi ne savons-nous pas conserver en nous ce sentiment, l'avoir toujours sur nous? Je ne vous apprends rien, on dit de nous les Français qu'on ne sait mobiliser collectivement que sur la colère et qu'on fait très bien les banderoles rageuses des manifestations. Si on nous proposait les mêmes mots que ceux proposés pour ce sondage que je citais en ouverture, pour qualifier notre état d'esprit général, je suis prête à parier que les mots négatifs auraient une meilleure place. Nous sommes tous épuisés d'une société fracturée, d'un monde qui part totalement en quenouille. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Pas vraiment. Est-ce que c'est si difficile de nous emparer de récits communs en dehors de célébrations sportives? Est-ce que la joie d'une société, ça s'entretient? Est-ce que c'est un muscle qu'il faut entraîner? Est-ce qu'on parlera aussi de politique publique de la joie? Mais absolument, joie des JO, si tu es la frappe de foi, eh ben c'est bien, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marc, vous êtes le premier, vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir France Inter, le téléphone sonne à vos invités. Alors, faute de maîtriser le paiement en ligne, je n'ai pas pu bénéficier de billets pour participer aux épreuves incontournables, style au marchand ou l'escrime au Grand Palais, ou encore l'équitation au château de Versailles, pour ne nommer que les plus vraiment marquantes vues télévisuellement parlant. Mais Olympics ne va pas oublier parce que il propose désormais par internet des propositions de manifestations pour d'autres événements sportifs importants. Et surtout, je signale qu'il regorge de moyens audiovisuels ou de dossiers de presse pour se cultiver ou même revoir les épreuves de Paris 2024. Ça, c'est en passant. Mais faute de mieux, donc c'était très bien aussi, j'ai pu participer aux épreuves gratuites. Mmh. Et là, j'ai pu communier, donc quand il y avait notamment le marathon de nuit, c'était quelque chose de vraiment magique, et aussi les épreuves cyclistes. Et notamment, ce que je veux dire, l'esprit olympique me semble continuer et perdurer, notamment par le fait que la dernière épreuve, future dernière épreuve du Tour de France passera par la butte Montmartre, qui avait été l'occasion de joutes et de ferveur populaire indescriptible.
Mais du coup, Marc, est-ce que vous êtes un géostalgique ou pas?
Oui, et je suis, et je veux dire que j'ai eu l'occasion de revoir, et justement, je ne vais pas faire une pub, je suis pas payé par eux, mais en tout cas, le site olympique permet justement de cultiver sa nostalgie, géo-nostalgie. Voilà,
merci,
entre autres.
Merci Marc, merci beaucoup pour votre intervention. Il y a plein de choses que je retiens dans ce que vient de nous dire Marc pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Je vous présente nos invités autour de la table. Il y a Jérémy Pelletier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Il y a Gwena Elgo, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice générale de l'OBSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Dans les mots que j'ai envie de retenir de ce que nous a dit notre ami Marc, il a parlé de communier à un moment. Il a parlé de ce qu'il reste de l'esprit olympique. Il a donc de l'épreuve de cyclisme qui allait venir derrière. Il a parlé de cultiver cet esprit-là. Mais au fond, j'aimerais savoir si ça correspond à ce que vous avez entendu des gens que vous avez interrogés, Jérémy Pelletier. Est-ce qu'on cherche à cultiver ce que nous avons vécu pendant un an ou, et donc d'essayer de le revivre, en fait, pour retrouver la joie, mais c'est l'autre, en fait, c'est la joie de l'année dernière, ou est-ce qu'on cherche à entretenir la joie que nous avons eue? Alors, j'ai peur de connaître la réponse, en fait.
On peut essayer d'entretenir, on peut essayer de cultiver cette joie-là, cette atmosphère-là, en se replongeant, par exemple, comme l'a dit l'auditeur, et comme le feront, je pense, d'ailleurs, beaucoup de Français au moment de la vasque,
sûrement, ouais,
dans les rétrospectives que proposeront les médias. Bon, force est de constater que dans notre enquête, on n'a pas une majorité de Français qui se disent être nostalgiques. On a 33% des Français, ce qui est pas mal. Avec certaines catégories de la population encore plus touchées par la nostalgie, les habitants de l'agglomération parisienne, très touchés par cette atmosphère-là, évidemment, durant les JO, les jeunes notamment, mais une grande majorité de Français, en gros, nous disent cette parenthèse s'est vite refermée et finalement, tout est redevenu comme avant. Donc, il y a quand même une forme de lucidité aussi chez les Français, en tout cas, qu'on a interrogé, qui disent, bon, c'était un élément ponctuel, c'était contextuel. Je rappelle aussi le contexte. C'était l'été, évidemment, c'était les vacances. Donc, c'était aussi un moment qui a pour corollaire la légèreté, l'insouciance, etc., etc. Mais c'est vrai qu'une grande majorité de Français a le sentiment que cette parenthèse s'est refermée. Et globalement, on ne voit pas des gens essayer de se replonger... Voilà, un peu naïvement, dans quelque chose qu'ils analysent lucidement comme étant une parenthèse, une parenthèse enchantée, une parenthèse très agréable. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que beaucoup dans l'enquête nous ont dit être nostalgiques de l'atmosphère.
Ouais.
Être nostalgique
c'était
de l'extra...
C'était moins les épreuves que l'atmosphère. Ouais.
C'est, en fait, ils sont nostalgiques de l'extra sportif, c'est-à-dire de la façon dont les gens se comportaient, la façon dont les gens regardaient les épreuves ensemble. Il n'y avait pas besoin d'être dans les stades, en fait, pour participer à ça. Il y avait les fan zones d'une part, il y avait évidemment la télévision d'autre part. Et donc, les gens sont nostalgiques, d'une ambiance, d'un moment, d'un état d'esprit. Et je pense que, même s'ils n'essaient pas forcément de le cultiver, je pense qu'il y a des moyens, il y a des ressorts justement pour le cultiver, pour conserver cet élément-là.
C'est bien la question que j'allais vous poser, Gonalgo, parce que si c'est effectivement l'atmosphère que les gens veulent retrouver, moins qu'effectivement les épreuves et le moment sportif, qu'est-ce qui fait qu'on la referme comme une porte qu'on claque en fait quand quand on descend les anneaux, cette atmosphère là, et que on lui court après, mais comme dit notre ami Marc, on court après ce qu'on a vécu, on cherche pas à se dire peut-être que j'en ai encore dans les poches et je vais donc continuer à en profiter aujourd'hui.
Alors je pense, moi c'est ça qui m'a marqué en fait, c'est que tout de suite passé les JO, on a parlé tout de suite de parenthèses que l'on refermait, et ça m'a évoqué aussi un moment qui était moins justement estival, moins joyeux, qui était le moment du Covid, où il y avait eu tout un élan, des élans de solidarité, des élans de générosité, des émotions aussi positives qui, dans un contexte plus lourd, s'étaient exprimées. Et de la même façon, on avait dit, dès que ça a été refermé, dès qu'on avait repris, on a dit, on reprend une vie normale et on oublie, en fait, ces moments-là, voire même un peu, de manière un peu cynique, on dit, regardez, les Français reviennent à faire les queues devant les magasins, etc., des choses comme ça. Et moi, ça me marque parce que, justement, ces moments-là, on sait très bien, en fait, institutionnaliser, utiliser, rebondir, légiférer sur la peur, la colère, le ressentiment. Et puis, on ne le fait pas sur justement toutes ces émotions positives. comme si ces émotions-là, c'était un peu apolitique, comme si c'était à part, on ne savait pas politiquement les transformer en quelque chose.
Regardez, je vais vous lire le message de Thierry qui vient de nous envoyer un message sur WhatsApp et qui nous engueule déjà. Bonjour, le monde est à feu et à sang, la planète brûle, et vous nous refaites le coup des JO un an après, mais c'est hallucinant. Et je trouve ça, au fond, assez caractéristique, en fait. C'est fini, c'est la parenthèse. L'important, c'est les choses terribles qui se passent. Est-ce que c'est nous, très français? Est-ce que c'est parce que l'événement des JO est tellement énorme que, de toute façon, il ne peut être qu'une parenthèse, de toute façon? Qu'est-ce qui fait qu'on replonge toujours dans ce que dit Thierry, en fait? L'un ou l'autre, peut-être Jérémy Pelletier ou Gonalgo. Allez-y, Jérémy, puis Gonalgo après.
Peut-être sur les JO, rappeler que ça a été un des rares moments assez communs. C'est-à-dire que dans une société, effectivement, plus fragmentée qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans, dans une société où, finalement, tout le monde, et plus personne, en tout cas, regarde le même film à 20h le soir, plus personne ne regarde la même série, tout le monde regarde à la carte et sur mesure. Ça a été en fait un des rares moments effectivement communs où tout le monde a partagé en fait le même moment, les mêmes émotions. Et en fait, ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez rare.
C'est intéressant, et donc, pardon, je vous interromps, parce que c'est intéressant parce que ça rejoint ce que vous disiez, Gwenaëlle Gauss, sur le Covid. Ça a été aussi le seul moment mondial, en fait, où nous vivions tous exactement la même chose au même moment. Donc c'est ça qu'il nous faut.
Absolument. Et je pense qu'en fait, ce qu'on vit post-JO, ce qu'on vit après, en effet, cette parenthèse, bah, finalement, c'est qu'on retrouve nos vies sur mesure, nos vies à la carte, nos vies extrêmement segmentées, dans une société qui peut donner, en effet, le sentiment qu'on vit les uns à côté des autres, avec des vies extrêmement parallèles, avec des grilles de lecture et des visions du monde en fonction des catégories de la population, en fonction des territoires dans lesquels vous habitez, extrêmement différents. Et donc, cette absence, finalement, de moments communs, cette absence de moments partagés avec un imaginaire collectif un peu commun, bah, comme il disparaît, comme il n'est plus présent, bah, en effet, on retombe dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus anxiogène. Et par ailleurs, je le dis d'un mot, je pense qu'on est dans une époque et dans une société où la légèreté, l'insouciance est...
suspect.
Comme je dirais, suspecte. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de la naïveté lorsque l'on qualifie quelqu'un qui va être un peu léger et un peu joyeux et qui va vouloir justement être un peu léger et un peu joyeux, d'autant plus, effectivement, l'auditeur a raison, dans un moment géopolitique extrêmement dur, extrêmement compliqué, avec une actualité extrêmement compliquée.
Mais c'est intéressant ça aussi. Est-ce qu'on a, ça veut dire qu'on n'a pas le droit à la joie à partir du moment où le monde va mal, par exemple? Mais ça me semble pas incompatible, moi, en fait.
Bah non, c'est bien ça, je pense, le truc, c'est que ça n'est pas incompatible. Et que, en fait, après cette parenthèse, on est revenu à une autre forme d'émotion qui nous écrase tous, qui est une forme de déclinisme, une forme de pessimisme, une forme de fracture. Là, moi, je pense que l'idée n'est pas forcément de revenir à la nostalgie des JO ou de se rejouer les JO, mais peut-être de, et ça aurait pu être le cas aussi juste après, au lieu de refermer la parenthèse, s'apercevoir que justement, les JO ont été révélateurs de quelque chose qui existe.
Donc, ça veut dire qu'on l'a, en fait. Et il n'a pas fallu gratter bien loin pour le trouver.
Il y a de la vitalité, il y a de la solidarité, il y a de la générosité. Seulement, on la voit moins. Là, il y a une démonstration de cette fierté aussi. Je vous signale juste que les drapeaux français, quelques mois auparavant, étaient utilisés dans certains meetings politiques, pas tous, et donc plutôt honteux pour l'ensemble du spectre, de spectre politique. Là, tous les drapeaux français étaient sortis. Donc il y a cette fierté, mais surtout, c'est aussi une force d'agrégation sociale, ça génère des liens, et plus que ça, en fait, la joie collective, ça peut être un moteur politique, ça peut être quelque chose sur lequel on prend appui. C'est Spinoza, le philosophe, qui dit que justement c'est une puissance d'agir, en fait, la joie. Donc c'est pas pour rester tanké au JO, en fait. C'est pour les dépasser, parce que c'est source d'initiative, d'investissement, mais la joie et ces moments-là, ça se travaille. Ça se travaille par des infrastructures symboliques au quotidien, comme le disait Jérémy, ce sont des réinventions de rituels, de synchronisation. Il y a des architectes comme ça, de la reliance et du lien, à qui il faut des espaces, il faut des temps, il faut des récits, il faut des médiations et des médiateur, c'est un boulot, c'est comme la sécurité.
Exactement,
c'est un boulot.
On va y venir un peu dans le détail, Gwenaëlle Gauss, parce que ça m'a fait rire. Vous avez une liste de remèdes, en fait, pour remettre la joie au milieu de nos vies. Juste avant de retourner au standard, cette remarque d'Olivier sur WhatsApp et qui dit de colère ou de joie, est-ce que les grands rassemblements humains ne sont pas tout simplement l'occasion de trouver le plaisir de se retrouver autour d'un point commun, chose finalement pas si simple. Et à la remarque d'Olivier, j'ai envie de vous demander si c'est de la colère, est-ce que c'est si grave? Parce que ce qu'on va chercher dans la manif, autant que devant un écran géant, c'est simplement le fait d'être ensemble.
Alors, non, mais ça, vous avez raison, et je pense que c'est un élément très important, en effet, à la fois des JO, dans les gens, en tout cas, qui ont participé aux épreuves, qui sont allés assister aux épreuves, mais aussi pour les gens qui les ont regardés à plusieurs et en groupe autour d'une télévision, c'était le côté collectif. Finalement, on s'est rendu compte, effectivement, dans pas mal d'enquêtes, qu'il y avait chez les Français le sentiment que là, durant ce moment-là, il y avait une forme de réhumanisation, en fait, de la société. C'est-à-dire, dans une société touchée par la solitude, dans une société touchée par l'isolement, qui augmente depuis les 5 ou 10 dernières années, dans une société touchée, en effet, par ce qu'on peut appeler la déshumanisation, par le délitement du lien social, là, en effet, durant cette période-là, on a eu un moment où on a le sentiment d'avoir de nouveau fait collectif, et très concrètement, il y a des gens qui ont eu de nouveau des relations sociales, des relations humaines avec des individus, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les places publiques, que ce soit chez eux, avec des gens avec qui ils partageaient ce moment-là. Et en effet, cet élément-là, il est très important, c'est-à-dire que si on veut réussir à cultiver cette joie-là, ça passe par quelques préalables, et il y a ce préalable préalable en effet du collectif, des relations sociales. C'est-à-dire, si on veut cultiver la joie, ça se fait forcément avec des gens, ça se fait forcément avec de la présence humaine, et donc ça se fait avec une réhumanisation de l'époque. Et je pense qu'il y a un deuxième préalable, c'est quand même aussi l'esprit, je dirais, de conquête, l'esprit de victoire. Parce que il y a ça aussi dans l'enquête qui est très intéressant, c'est-à-dire que les Français nous disent, bah, durant cette période-là, on a eu le sentiment que la France gagnait, que la France rayonnait
d'ailleurs,
à l'international.
D'ailleurs, le premier mot, c'est réussite sur les six. C'est intéressant.
Et, et alors qu'on a quand même le sentiment de baigner globalement dans un pays qui est souvent touché quand même par l'esprit de défaite, l'esprit en effet de déclin, Guénène l'a dit, on se compare avec les autres nations, on a le sentiment en effet d'être en déclassement, d'être en tiers-mondisation, etc. Là, durant cette période-là, les Français se sont dit « Ah, là, je suis fier d'être français parce que je gagne, parce que tout se passe bien, parce qu'on arrive à organiser un événement de ce type-là. »
Et parce qu'on nous le répète aussi tous les quatre matins, Guénène Hidalgo, il a raison. Jérémy Pelletier, je pense, par exemple, et nous ici les premiers, on en a fait des sujets, voilà qu'on classe les élèves dans les classements de l'OCDE et du reste, et qu'on les trouve en dernière position et qu'on se lamente parce qu'on est dernier. Voilà qu'on aime bien aussi, c'est un sport national chez nous, d'aller chercher là où c'est descendu, là où on est 9e sur 10, etc.
C'est, oui, je pense, et c'est pour ça que moi, en tant que, voilà, comme Jérémy, observatrice du monde social, j'étais contente de voir que l'on montrait pour une fois quelque chose d'autre des Français que moi j'observe au quotidien. C'est-à-dire, quand on regarde justement, mais au-delà de l'écosystème politico-médiatique qui a tendance justement à polariser plus qu'elle ne l'est la société, qui est beaucoup plus nuancée, qui est beaucoup plus apaisée, qui est beaucoup moins... si vous voulez, c'est plus facile en fait d'instrumentaliser, mettre en scène, canaliser la colère et la peur.
À certains égards, c'est plus vendeur.
C'est plus vendeur, ça crée aussi de l'adhésion plus rapide des audiences, des réflexes et des oppositions. La joie, c'est plus subtil en fait. On cherche pas un ennemi, on cherche un horizon. Et un horizon, politiquement par exemple, c'est plus exigeant en fait à trouver. Donc il y a quelque chose de l'ordre aussi du court terme et du long terme dans cette histoire.
On va revenir sur cette idée. Je voudrais d'abord qu'on écoute Loïc qui est avec nous. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Loïc.
Alors, tout simplement, moi, c'était les 50 ans de mon mari l'année dernière. Je lui ai proposé d'aller à Bali ou ailleurs. Et il m'a dit non, je veux les JO. Donc, du coup, la veille même de la cérémonie, nous étions 10 à la maison. Le lendemain, on était porte de Versailles à voir le beach volley. Et donc, moi, je m'oppose un petit peu à ce que vient de dire un de vos collègues, mais sans aucune méchanceté. C'est que moi, qui gagnait, on s'en fichait. Peu importe, on était au beach volley sous la tour Eiffel, on était ensemble. Oui. Et en fait, la joie, elle n'a rien d'éphémère. Là, on va retrouver un de ses comparses ce vendredi. On va en reparler. On avait une dame de 75 ans. Quand on se revoit, on parle de ça. La joie d'un anniversaire entre amis, ça c'est vrai, c'est le collectif. Il n'y a rien d'éphémère. Et je crois que le Français, au contraire, il est joyeux. Il est joyeux quand il a une idée politique où il est content, ou alors il est contre, mais il y a un collectif qui est là. Et la joie, par exemple, fin de vie qui a été choisie, c'est aussi une joie qui n'a rien d'éphémère, qui est établie français à l'intérieur, dans les maisons, entre les murs, vous verrez qu'il est joyeux. Il n'est pas tout le temps négatif, au contraire. Un repas partagé, Fabienne, ou écouter ensemble la radio, être d'accord ou pas d'accord, c'est un truc qu'on partage ensemble. Et la joie, elle n'est pas éphémère. C'est comme un disparu, par exemple. Vous avez perdu quelqu'un, votre grand-parent, vous continuez à en parler, il n'y a rien d'éphémère dedans. La joie de l'avoir vécu est là.
Eh ben merci beaucoup Loïc, nous fait plaisir Loïc. Vous voyez, Guénène Hidalgo, il y en a des comme Loïc.
Mais c'est bien ce que je dis,
Mais ce que je trouve intéressant dans ce qu'il nous dit, ce que disait Loïc au début, on s'en foutait de voir qui allait gagner ou pas, on allait au moment. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Guénène Hidalgo, sur le fait que, au fond, dans la vie de tous les jours, et très souvent, et on le voit aussi sur les médias, on nous demande de choisir un camp. Tout le temps, il faut être pour, il faut être contre. Et là, alors que c'était du sport, on ne nous demandait pas forcément de choisir un camp. Qu'est-ce que c'est reposant, Jérémy Pelletier? C'est peut-être ça aussi.
Alors ça, je pense que c'est un élément très important aussi qui explique cette nostalgie d'atmosphère. C'est-à-dire que, et c'est la vérité, pendant un peu plus d'un mois, on a mis de côté... en effet, la politique. On a mis de côté, les problèmes de l'époque.
On sortait d'une sacrée séquence, hein, quand même.
On sortait de la législative, de la dissolution. C'est une séquence très dure. Il y avait déjà le contexte géopolitique qui, évidemment, s'est accéléré depuis. Et c'est vrai que, mais comme une bonne fête, pour qu'une fête se tienne correctement, pour qu'une fête réponde à ce qu'on attend d'une fête, il faut laisser en dehors de la piste de danse les problèmes personnels, les problèmes politiques, les problèmes d'amour, les problèmes d'argent, etc. Et donc, il faut accepter. Et c'est ça aussi, je pense, qui manque à la société, il faut accepter qu'il y ait des moments où on laisse de côté les choses. Et je pense que là, l'époque et la société a du mal à ne pas venir empiéter en permanence sur la fête avec, en lui rappelant les problèmes de l'époque, en lui rappelant les problèmes politiques. Moi, je suis toujours très surpris de voir la multiplication, par exemple, de fêtes des causes. C'est-à-dire, on fait des fêtes pour défendre telle ou telle cause, pour défendre telle ou telle catégorie de la population, pour défendre tel ou tel événement. Je pense que c'est important, mais je pense que la population, les individus ont besoin de moments sous pape où justement on accepte là le temps d'un instant de laisser en dehors de la piste dedans justement les problèmes de l'époque pour aussi recharger les batteries, s'y replonger ensuite in fine. Et ça, je pense que cette époque-là manque, je pense, d'espace séparé finalement du reste.
Et où Fabienne, me dit François, vous confondez euphorie et joie. La joie n'est pas synonyme de victoire, de performance ou de triomphe, mais l'euphorie, oui. Il a raison ou pas, Gana Hidalgo ?
Moi, je sais pas, je pense que la joie, c'est... oui, de toute façon, il y a une idée aussi d'instant quand même. C'est-à-dire que la joie, c'est une émotion très positive, une émotion très agréable et un bonheur de l'instant. L'euphorie, c'est un petit peu plus que ça et c'est encore un peu plus éphémère. Donc oui, il faut être juste sur les termes. Et je pense que l'idée, c'est aussi... Je sais pas, je suis partagée, moi, parce que je pense que justement, on peut... Aujourd'hui, c'est toujours où... Ça dit quelque chose quand même de notre société où le négatif l'emporte toujours sur le positif. Et je pense que c'est pareil, c'est-à-dire on peut reparler, on en a beaucoup parlé avec Jérémy, parce que figurez-vous qu'on est supporters du PSG tous les deux.
Et bien, mais j'allais y venir, effectivement. Et la France entière était PSG sauf Marseille. Voilà. Mais la France entière l'était.
Mais là, il y a eu, de la joie, il y a eu des... En se baladant dans Paris le soir de la victoire de la Ligue des Champions, c'était Paris en liesse. Et en même temps, on a bien vu qu'il y avait aussi des violences. Enfin, il ne faut pas nier non plus ces violences-là. On sait aussi qu'il y a des violences conjugales, qu'il y a des choses qui se passent lors des phénomènes qui sont des phénomènes collectifs. Donc je pense qu'il y a un moment, à la fois, il ne faut pas passer sous le tapis les choses négatives qui se passent dans un cadre positif, mais je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une atmosphère décliniste continuelle, où on passe sous le tapis toutes les choses positives qui existent réellement, et sur lesquelles on pourrait propulser quelque chose qui nous rappelle un peu, et qu'est-ce qu'il y a de plus important et plus sérieux que la capacité en fait d'un peuple à faire corps, à se sentir vivant et à se projeter.
Je vous écoute, nous dit Bruno, et je me souviens de quelque chose qui m'avait agréablement marqué pendant les JO et qui explique peut-être le bon souvenir de ces Jeux, c'est que durant cette période, on n'a pas parlé politique, on n'a pas vu de politiciens, et les clivages qu'ils entraînaient aussi derrière eux, on était tous français, tous unis, et c'est tout. Et ça me rappelle ce que vous dites l'un et l'autre, d'ailleurs, sur le fait qu'on ne savait pas quoi faire de cette joie-là à ce moment-là. Moi, je pense que c'est surtout les politiques qui ne savaient pas quoi en faire, subitement, qui ne savaient pas quel message il fallait adresser, et c'est là aussi probablement très symptomatique du pays dans lequel nous sommes, où nos politiques ne savent même pas, ou ont peur de se faire engueuler si ils supportent tel ou tel sportif, ou tel sport, ou s'ils montrent une photo d'eux à ce moment-là, et du coup on ne les a pas entendus.
C'est très juste, ils se sont mis aussi volontairement en retrait, en effet, de cette séquence-là, comme s'ils n'avaient pas les codes, en effet, qui étaient les codes, en effet, de cette période-là. Et dans les codes, il y avait des éléments qui étaient très intéressants. Quand vous regardiez les émissions justement de télévision, quand vous écoutiez les émissions de radio avec les athlètes qui passaient les uns après les autres, il y avait quelque chose de très intéressant. Il y avait une forme de fraîcheur, de spontanéité dans leurs expressions. C'est-à-dire que tout le théâtre, toute la novlangue, entre guillemets, qui est souvent critiquée, et à raison, je pense, par les Français quand les politiques s'expriment, tout finalement, ce jeu de polémique perpétuelle, etc. Et donc cette absence, je dirais, peut-être oui, d'authenticité dans l'expression, bah, en effet, les responsables politiques ont eu du mal, en effet, à se saisir de cette période-là, parce que les codes aussi du débat public avaient changé. Et moi, j'étais vraiment frappé de cette forme, oui, de naturel, de fraîcheur, d'authenticité, de simplicité, sans le théâtre, en effet, auquel les Français, lorsqu'ils regardent la télévision, sont habitués. Donc, je pense que oui, en effet, les politiques ont eu du mal à se saisir d'un moment qui était peut-être un moment un peu plus authentique que d'habitude.
On a une note vocale, on va la découvrir ensemble, c'est celle de William.
Bien sûr que les JO étaient un super moment, mais rappelons-nous que nous sortions à peine d'une campagne électorale qui a vu un bouleversement important des équilibres et où les Français ont évité de justesse une catastrophe antidémocratique. Par ailleurs, depuis les JO, où trouvez-vous une seule raison de nous réjouir ? Je n'en trouve pas pour ma part.
Merci pour cette note vocale, William, et j'ai envie de mettre William en relation avec notre auditeur précédent, Loïc, qui trouvait lui plein de manières de se réjouir. Moi, je trouve ce message génial, Gwenaëlle Gou, parce que d'abord, il y a un « mais », tout de suite, en fait, oui, c'était bien, mais, et patatras, on est reparti. Et encore une fois, il y a ce sentiment que nous avons tous, qui est de dire, mais le monde va tellement mal, je n'ai pas le droit, en fait, de me réjouir. Il y a un peu ça dans l'esprit de tout le monde, j'ai pas le droit.
Bah oui, mais je pense que justement, c'est tout l'intérêt, c'est de mettre un « et ». C'est-à-dire
pas un mais un et.
Ouais, voilà, c'est un et parce que je pense que les Français souffrent aussi beaucoup et Jérémy l'a rappelé en fait, a rappelé aussi la solitude qui peut exister, le sentiment de manque de reconnaissance, en fait justement ces moments-là, c'est aussi une autre manière d'attaquer les racines de la solitude, de l'isolement et de la radicalité, si vous voulez, si on les transforme justement en quelque chose. Et même, ça permet aussi de revenir sur la défiance généralisée vis-à-vis de la démocratie, parce qu'on s'aperçoit justement que les Français, c'est autre chose que ce qui s'est passé juste 2 mois auparavant. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous que les politiques se sont retrouvés un peu comme des poules devant un couteau.
Exactement.
Et c'est là le problème. Alors, je pense qu'ils sont... C'est compliqué, parce
que... On leur aurait probablement reproché, c'est compliqué, ils marchaient sur 2 heures, on leur aurait reproché de tirer la couverture à eux si on les avait lus, etc. Ou s'ils avaient tweeté, etc.
Oui, du JO washing.
Exactement. du dissolution washing en allant au JO, etc.
Voilà, enfin, c'est ça.
Écoutez ce que dit Ariel. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de cultiver la colère que la joie? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on se rassemble plus facilement finalement quand on est en colère? Et elle ajoute ceci que je trouve intéressant. La colère appelle l'action contrairement à la joie.
Mais je crois pas. Je pense que la colère appelle la réaction et que la peur, en fait, la colère, ça donne du pouvoir ou le sentiment d'avoir du pouvoir. Mais la joie donne, et justement ce que disait aussi Spinoza, ça donne de la puissance. Mmh. Et c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, ben, je pense que justement, on voit les difficultés du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui et de la façon dont il est exercé à s'emparer de ça. Beaucoup plus de facilité à s'emparer du moindre fait divers qui provoque des émotions et à juste raison extrêmement fortes. Mais la difficulté à s'emparer de ça, et encore une fois, parce que je pense que... la colère va légitimer aussi l'urgence d'une réaction, alors que la joie, elle exige un projet et plus une réponse et quelque chose de plus constructif. Et c'est compliqué aujourd'hui. On sait, aujourd'hui, les politiques, je ne veux pas faire que les blâmer, hein, je pense que les Français aujourd'hui ont du mal à se projeter dans le temps, c'est-à-dire on se dit, on est la première génération à se dire que la suivante vivra moins bien que nous. Comment est-ce qu'on se projette? Il y a une difficulté réelle à se projeter.
Après,
c'est un gros boulot.
Ce que je trouve intéressant, c'est, au fond, on a l'impression que la joie ne marche qu'avec les gros événements. Je repense à notre auditeur qui disait, moi je ne trouve pas de moyen de me réjouir, mais je vois ce message par exemple sur WhatsApp de Sylvie qui dit, moi je vous écoute en préparant mon marché de demain matin, j'ai aimé les JO comme j'aime les bonheurs plus simples, retrouver mes clients sympas, cueillir des cerises avec mes petits-enfants, observer des petits hérissons, il appelle ça des choupissons, on dit des choupissons les petits hérissons, ouais, ben, vous voyez, j'apprends quelque chose dans mon jardin, cultiver les petits bonheurs me permet de traverser plus sereinement les difficultés quotidiennes. D'une paysanne bio d'ailleurs, c'est ce qu'elle nous dit Sylvie. Et peut-être que c'est ça aussi l'une des clés, comme si au fond, on se le permet sur un énorme événement collectif, mais on oublie que la joie, c'est aussi fait de toutes petites choses qu'on emporte avec soi dans sa besace quand on, une fois qu'on est dans le métro, quoi,
Oui, alors justement, c'est intéressant ce que vous dites d'une fois qu'on est dans le métro, parce que je pense encore une fois que, comme on le disait au début, la joie, ça se travaille, et c'est un travail très politique, en fait, la joie. D'ailleurs, les JO, il a fallu 7 ans pour les préparer, et pour que ça soit cette joie-là. Il y a des chercheurs d'une université à Chicago qu'on fait une expérience justement dans le métro et qui ont pris 2 groupes et à l'un des groupes, ils les ont forcés à parler avec quelqu'un dans le métro. Et à l'autre groupe, pas. Et en fait, après...
Ils ont forcé à parler, c'était...
Forcé à parler, forcé à parler. Mais on est dans une société un peu économiciste, si vous voulez, et un peu néolibérale, hein, où on considère l'autre souvent comme pas comme un allié ou un pair, mais souvent comme un concurrent, hein, comme une variable d'ajustement, comme quelque chose d'utilitaire. Donc là, c'est parfois difficile de briser ça. Mais ils les ont forcés à parler à leurs voisins dans le métro, et les gens sont ressortis beaucoup plus heureux, surpris et heureux. Donc on voit que, alors on va pas forcer les gens à se parler les uns les autres, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des infrastructures aussi, c'est des moments, c'est la façon dont on organise la ville, c'est la façon dont on... plein de choses en fait comme ça, qui encore une fois une infrastructure concrète et une infrastructure aussi symbolique.
Pas d'impératif et pas d'injonction non plus, j'y pense, parce que voici Paul qui nous dit ceci, pardon, mais l'impératif de joie, d'enthousiasme obligatoire pour les JO, la victoire de l'équipe de France dans quelque sport que ce soit, n'est-elle pas un peu anxiogène? A-t-on le droit, un an après, de continuer à trouver pénible les JO ou les Coupes du Monde de foot sans passer? Comme ce fut dit sur votre antenne à maintes reprises, nous dit cet auditeur, pour des rabat-joie ou des tristes cires. Qu'est-ce qu'on dit de cette... Et vous voyez, on est un an après, ça marche toujours. On se faisait engueuler, effectivement, en disant mais j'ai le droit de ne pas être content de ces JO-là. Et ça aussi, ça parle de nous, non, Jérémy Pelletier?
Évidemment, et je pense qu'il faut... absolument pas tenir de discours coercitif. Il faut que tout le monde ait la liberté
maintenant.
De choisir en effet ces moments de joie, ces moments de plaisir. L'élément en effet qui est intéressant aussi, pour revenir sur le message WhatsApp précédent, et ça on le voit pour le coup dans la société, souvent les moments de joie, les espaces de joie se font vraiment à l'échelle locale. Et ça, je crois qu'il faut être très clair sur ça. Il faut être très aussi lucide et enjoué justement quand on analyse les sociétés. On se rend compte en effet que c'est vraiment à l'échelle locale, que c'est à l'échelle de la proximité. Le message était très représentatif, en effet, sur les marchés, la joie d'aller au marché, etc. Très représentatif de ce qui procure en effet de la joie chez beaucoup de Français. Ça se fait beaucoup à l'échelle locale, ça se fait beaucoup à travers les solidarités locales, ça se fait beaucoup à travers les interactions justement dans son village, dans sa petite ville, à échelle de quartier. Et donc, il faut aussi, je pense, en effet, peut-être distinguer deux choses. Ces grands moments, en effet, de liesse populaire, où on a le sentiment de vivre un moment effectivement partagé et commun, mais qui ne sont pas incompatibles avec ces joies vraiment du quotidien. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, Denis Grosdanovic, qui parle de ça en permanence avec tous ses livres, notamment Petit éloge du temps comme il va. Et en fait, beaucoup de Français, en effet, cultivent ces joies-là à travers vraiment l'espace d'ultra-proximité. Mmh. Et ça, c'est une très bonne chose, évidemment, qu'il ne faut pas changer.
L'injonction à la joie est proprement insupportable, nous dit Philippe. Mais au fond, je trouve ça vraiment intéressant. À la fois, c'est comme si on avait le droit aussi de revendiquer le fait qu'on est en colère tout le temps et qu'on n'est pas joyeux.
Peut être en colère tout le temps, mais juste avant, je rejoins complètement Jérémy sur la joie justement locale, la joie infrasociale qui pour moi n'est pas du repli, c'est une autre façon aussi de refaire du lien social. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à le faire passer au niveau macro. Et pour moi, l'injonction et le côté coercitif, il est plutôt inverse, c'est-à-dire que c'est ce qui me surprend tout le temps, c'est-à-dire que justement, quand on parle de la joie, ou quand on parle, on referme, ou alors y a un petit sarcasme, une défiance ou un mépris. Voyez, et c'est moi, enfin, quand on parle de la joie, j'ai l'impression de parler d'un truc qui est naïf et qui est apolitique.
Eh ben, on va écouter Renaud et après je lirai là un extrait de votre contribution à l'étude dont on parle, parce que ça répond exactement à ce que vous dites. Bonsoir Renaud.
Oui, bonsoir. J'avais une petite citation et puis une question. La petite citation, c'est du philosophe Alain. Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Mm-hmm. Et puis une question. Est-ce que il faut dans des événements comme cela des victoires pour vivre une telle joie? Sans autant de victoires et sans un sport français qui aurait autant brillé, comment aurions-nous vécu ces JO?
Merci beaucoup, Renaud. Il a raison. Il y a à la fois, comme le disait notre auditeur tout à l'heure, le fait qu'on peut regarder un match de beach volley et on suit pas mal de qui va gagner. Mais effectivement, si on n'avait pas pu mettre le mot fierté dans votre liste, si donc il n'y avait pas eu de victoire, on n'aurait pas pu mettre ce mot-là, ça aurait été différent peut-être.
Alors, je pense quand même que ce mot-là serait arrivé assez en haut, parce que ce qu'on note, c'est que c'est d'abord avant tout la fierté de voir la France capable d'organiser cet événement-là. Et c'est-à-dire, c'est non pas la fierté de voir la France gagner, en effet, très bon résultat, le pays a terminé 5e au classement des médailles, donc évidemment, très bon score et très bonne performance, mais la fierté vient d'abord et avant tout du rayonnement de la France, dans le sens, notre pays est encore capable d'avoir l'intégralité du monde qui regarde et qui a les yeux tournés en effet vers nous. Et donc c'était d'abord avant tout une fierté et une surprise, je pense, fierté et surprise, de voir notre pays capable d'organiser un événement en fait mondial. Et donc c'est pas tant la fierté de voir la France gagner que la France capable, avec son administration, ses entreprises, sa capacité organisatrice, à justement mettre en scène un événement de ce type. C'était beaucoup d'ailleurs la fierté, et ça c'est un élément qui revient, la fierté de voir par exemple la cérémonie d'ouverture. Il ne s'agit pas de défaite ou de victoire, c'était simplement le fait de voir une belle cérémonie, et la fierté de voir le pays capable d'organiser quelque chose de beau et quelque chose de joli.
Je reviens à ce que vous disiez, Gwenaël Hidalgo, sur cette espèce d'esprit un peu condescendant, parce que vous, dans votre contribution, vous dites maintenant, mais il peut y avoir des solutions pour ne pas refermer, pour transformer cette joie des JO, et vous dites carrément très sérieusement qu'on pourrait créer un secrétariat d'État à la joie collective, évaluer les politiques...
C'est un petit peu provocateur.
J'ai bien compris, merci beaucoup. Évaluer les politiques publiques en fonction de leur capacité à produire du lien. Et du coup, en conclusion, vous dites, j'imagine certains d'entre vous esquisser un petit sourire condescendant, tout cela est fort touchant et sympathique, mais aussi naïf qu'irréaliste, en tout cas, tout sauf un sujet prioritaire. Si c'est le cas, interrogez-vous pourquoi cette réaction pavlovienne de sarcasme, de défiance ou de mépris face à l'idée de faire de la joie une politique publique. Et la question que vous posez, c'est, après tout, est-il plus sérieux d'investir dans la sécurité et totalement fantasque d'investir dans la convivialité? Vous avez la réponse ou pas?
Non, mais... Et faut faire les deux. Faut faire les deux. Aujourd'hui, il y a 4000 personnes qui sillonnent la France pour une politique sécuritaire et migratoire. On pourrait imaginer 4000 personnes qui sillonnent la France justement pour créer de la convivialité ou des événements.
Est-ce que vous aussi, vous êtes géostalgique ou pas, Jérémy Pelletier? Est-ce que c'est pour ça que vous avez eu l'idée, ou en tout cas que vous avez accompagné cette étude-là chez Jean Jaurès? Je suis assez curieuse de ça.
Alors, j'aime bien la nostalgie, mesurer la nostalgie, parce qu'on est un pays nostalgique. On voit d'ailleurs que la nostalgie est quelque chose qui marche bien, qui est un ressort pour les marques, pour la grande consommation, en effet, qui marche bien. Et donc, ça nous intéressait de mesurer
c'est
justement
lucidement. C'est nostalgique et le patrimonial, en fait.
Oui, absolument.
Il y a de ça aussi dans les JO, en
absolument.
Fait, de patrimonial.
Et ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, justement, la nostalgie, parce qu'on peut venir puiser dans quelque chose. Et moi, ce qui m'intéressait de mesurer, c'est effectivement, c'est est-ce que dans une société de la solitude, dans une société touchée par l'isolement, est-ce qu'il y a justement cette nostalgie de la convivialité, des rapports sociaux et de la réhumanisation? Et je suis convaincu qu'on a aimé cette période-là parce que, justement, pendant un mois et demi, on a eu le sentiment de nouveau d'avoir des rapports sociaux, des interactions, de vivre quelque chose de commun, etc. etc. Et on sait que là, c'est un ressort très important, parce que dans une étude qu'on avait réalisée avec BVA il n'y a pas très longtemps, on se rend compte qu'une grande majorité de Français considèrent que les relations sociales se sont détériorées sur les 20 dernières années. Mm-hmm. Toutes les relations sociales entre un agent et un usager du service public, avec des commerçants. Et donc je pense que là, il y a un ressort à utiliser.
On va donner la conclusion à Zawadzki qui nous a écrit, qui dit « Se rappeler des moments de joie comme vous le faites ce soir permet de cultiver l'espoir. C'est une nécessité vitale dans un monde comme celui d'aujourd'hui pour trouver la force d'agir. La joie n'a rien de niais, elle est pouvoir. » Ben voilà, je vais vous l'encadrer, Gwenaël Hidalgo.
Merci.
Allez, à tout de suite.